Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Nous parlons de la valorisation des ressources minières en Afrique cette semaine dans votre émission. Que font réellement les pays du continent pour se doter d'une industrie de valorisation de ces ressources? Nous en parlons au cours de cette émission et ce sera dans quelques instants avec l'économiste François Conradi. Dans cette émission également, nous faisons le zoom sur la rentabilité économique du café Touba. C'est un café très consommé au Sénégal, vous en saurez davantage. Et ce sera dans le zoom express. Et notre destination éco de la semaine nous mène en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun, avec notre analyste Idriss Lindje. Nous verrons quelles sont les opportunités d'investissement dans ce pays d'Afrique centrale. Quels sont les principaux sujets de votre émission? Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais en titre, nous allons parler de la transformation des ressources minières en Afrique et ce, avec l'économiste François Conradi. Mais avant cela, prenons la direction d'Abidjan, où se tient la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques, le CIREX. L'objectif est de se positionner durablement dans les activités de transformation industrielle. Prenons donc la direction de la Côte d'Ivoire avec Mel Berchel.
Sous le thème « Développement durable des industries extractives et énergétiques, quelle politique et stratégie ?» La première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques, CIREX à Abidjan, ambitionne de positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur clé dans les secteurs des mines et de l'énergie. Mamadou Sangafowa Koulibaly, ministre ivoirien des mines.
Ce salon donne également l'opportunité aux acteurs du privé, comme aux institutions multilatérales et aux acteurs publics, de nouer des partenariats et de faire des annonces importantes qui vont impacter leur entreprise, leur pays et le climat.
Avec plus de 300 exposants et 20 000 visiteurs attendus, cet événement favorise les partenariats Sud-Sud et Nord-Sud, tout en mettant à l'honneur la Norvège, invitée spéciale pour son expertise en hydrocarbures et énergie renouvelable. Timoko Meilié-Koné, vice-président de Côte d'Ivoire.
Il devient également urgent pour l'Afrique de répondre aux attentes croissantes en matière de transformation locale des ressources extractives et de développement des services connexes, afin de maximiser leur valeur ajoutée et de créer des emplois.
Premier du genre en Côte d'Ivoire, le CIREX 2024 ouvre la voie à une meilleure compréhension des enjeux des industries extractives. Les visiteurs auront 5 jours pour explorer les potentialités, découvrir les innovations et participer à des conférences animées par des experts mondiaux. Mel Berchel, Abidjan, Midi 1.
Merci à vous, Mel Berchel, correspondant de Midi 1 à Abidjan. À présent, place à François Conradi, économiste à l'Economics Oxford Africa. Avec lui, nous allons donc parler de cette industrie de la transformation en Afrique. Bonjour à vous, François Conradi, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Omar.
Alors, tout d'abord, cela fait au moins une décennie qu'on parle de transformation des ressources minières et agricoles hein, sur le continent. Où est-ce qu'on en est réellement?
Oui, plus qu'une décennie. C'est depuis les indépendances, ça a été un objectif des gouvernements africains d'améliorer leur profil de commerce en ajoutant plus de valeur à l'intérieur. Et ça n'avance pas vraiment. Il y a quelques succès, peut-être plus dans les hydrocarbures que dans les mines. Là, je pense surtout à la raffinerie de Dangote au Nigeria qui a commencé à produire cette année. Mais dans les mines, malheureusement, non. On est toujours presque exclusivement dans une logique qui date du 19e siècle où nous exportons nos matières brutes. Pour être transformé soit en Asie, soit en Europe.
Alors, c'est globalement donc de l'exportation de ces matières brutes. Alors, qu'est-ce qui réellement empêche à mettre en œuvre et à réussir cette transformation des ressources minières et agricoles dans le continent?
Alors, il y a des problèmes à attirer des capitaux. Ça, c'est un problème qui est ancien et récurrent. Donc, les projets de transformation, qui sont des projets d'usines, hein, des projets pour lesquels il faut des infrastructures logistiques déjà existantes, il faut beaucoup d'électricité, il faut une main-d'œuvre quand même assez qualifiée. Donc les déteneurs de capitaux, les investisseurs, historiquement, n'ont pas été convaincus que tous ces facteurs de production avaient pu être rassemblés en Afrique. Plus récemment, même dans les périodes où les capitaux ont été pas chers et abondants, en Afrique australe, nous avons eu des problèmes d'électricité graves en Afrique du Sud et en Zambie, donc qui ont empêché la transformation du cuivre en Afrique. Et les problèmes logistiques demeurent quand même sérieux. Donc, les infrastructures les chemins de fer et les ports qui peuvent exporter les minéraux de base en brut existent depuis longtemps, mais nous avons peiné à construire ce qu'il faut pour permettre le transport facile des gens en Afrique. Je parle de routes ou de chemins de fer pour passagers. Mmh. Tout ce qu'il faut pour vraiment tisser un tissu industriel, on prend trop de temps à mettre cela en place.
Mmh. Alors, on voit qu'actuellement, de nombreux gouvernements, alors je parlais d'une décennie, vous me disiez que cela était un objectif depuis l'indépendance. Alors, on sait que ces dernières années, quand même, tout le monde en parle. Hein? Et les nouveaux gouvernements, on pense au Sénégal par exemple, où d'ailleurs le gouvernement a décidé cette année d'interdire l'exportation de l'arachide hein, pour une oui. transformation locale. Alors, actuellement, on en fait plus que jamais un objectif. Alors, selon vous, pensez-vous qu'on est désormais sur la bonne voie pour les années à venir? Peut-être que d'ici quelques années, on dira qu'enfin, on a réussi à réussir ce pari?
Oui, c'est possible. Donc, il y a une volonté qui sort, par exemple, dans le cas d'un nouveau gouvernement entrant, comme on le voit au Sénégal. La volonté y est. Et peut-être que dans le cas de l'arachide, ça se fera et ça peut servir d'exemple pour d'autres industries. Mais venant d'Afrique australe et pensant surtout au cuivre et au minerai de fer, quand je pense mine, je pense quand même que les problèmes d'électricité d'un côté et aussi les soucis qu'on peut avoir par rapport à la faisabilité de monter un projet industriel qui doit recruter beaucoup de gens vont continuer à freiner dans la plupart des pays. On peut voir des exceptions ici et là, mais dans la plupart des pays, je pense que ça va freiner quand même le développement de l'industrie.
En tout cas, on espère vivement que donc cela va se concrétiser, donc ces objectifs de transformation, notamment des ressources minières. Alors, une dernière question qui me vient à l'esprit, François Conradi. Je rappelle que vous êtes économiste à l'Oxford Economics Africa. Vous êtes basé à Casablanca. Cette année, et vous nous en avez parlé à plusieurs reprises, la Chine n'a pas encore été aussi gourmande que les années précédentes sur en demande de matières premières depuis le continent. Comment voyez-vous se projeter l'année 2025 par rapport à ces demandes en matières premières?
C'est à voir. Donc, ce qu'on a vu dans les années passées, cette fin presque sans fond des Chinois pour les matières premières, pour la production locale, ce n'est plus comme ça. Et, enfin, la Chine n'est aussi plus le premier pays industriel. Je veux dire, il y a d'autres pays où qui sont maintenant, où la main d'œuvre est devenue moins chère qu'en Chine, où les usines se sont installées. Donc, il est normal aussi que, avec la Chine qui mûrit économiquement, cela perde un peu de force, d'énergie. Donc, toutes les indications sont quand même qu'en 2025, la production chinoise et donc la demande chinoise pour les matières premières va être moins forte que dans les années précédentes.
Donc, une demande chinoise qui a baissé en 2024 et qui risque de l'être davantage. Donc, pour l'année prochaine, en tout cas, ça doit donner des idées par rapport donc à cette valorisation et cette transformation des ressources donc du continent en Afrique. Merci à vous, François Conradi. Je rappelle que vous êtes économiste à l'Oxford Economics Africa. Vous êtes basé à Casablanca. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation.
Merci, Omar.
Zoom Express.
Et nous allons parler d'un café très consommé en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sénégal, puisqu'on parle de café Touba. Vous connaissez probablement la ville de Touba, cette ville donc religieuse, capitale du mouridisme. Cette ville a un café qui porte son nom, donc c'est le café Touba, et vous allez le voir, c'est un café qui crée du business. On en parle donc avec Bousso Diouf, qui est la PDG de Café Touba Al-Muntaha. Bonjour à vous, Bousso Diouf, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, ça fait vraiment un plaisir.
Alors, de vous rejoindre. Le plaisir est partagé. Et avec vous, Moustapha El Bouri, qui est le directeur général de la plateforme Best Afrique, qui aide à connecter les investisseurs du continent entre eux, mais aussi avec ceux de la diaspora. Bonjour à vous, Moustapha El Bouri.
Bonjour.
Alors, nous allons donc, comme je le disais, parler du business du café Touba au Sénégal. Avant tout, Bousso Diouf, présentez-nous le café Touba. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement?
Oui, en fait, le café Touba, c'est un produit historique, un produit culturel purement sénégalais que le cheikh Ahmadou Bamba nous a légué lors de son voyage, de son exil au Gabon. C'est un produit qui est fait à base du café et on y a ajouté quelques épices comme le clou de girofle et le poivre de Guinée aussi pour certains. Donc c'est un café purement sénégalais et purement africain aussi.
Donc c'est un café donc mélangé à de l'ingrédient ou à des ingrédients sénégalais. Alors Moustapha El Bouri, on sait que bien évidemment le continent est par excellence aussi hein, un continent donc de café. Je pense notamment aux pays d'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, le Kenya. Parlez-nous justement de ce secteur du café en Afrique, Moustapha El Bouri.
Oui, Omar, comme vous l'avez cité, le café, c'est un produit qui est très important d'ailleurs pour le continent africain. C'est une source de revenus pour près de 60 millions de personnes. Donc, ça génère beaucoup d'emplois directs et indirects. Et on a sur le continent, honnêtement, les meilleurs cafés du monde, que ce soit en Robusta et pour des pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, ou le Cameroun, ou encore l'Arabica, comme vous l'avez cité, au Kenya, en Éthiopie, Rwanda, en Tanzanie, c'est des pays qui ont un très très bon café Arabica. Donc aujourd'hui, le potentiel du café est énorme sur le continent, malgré le fait que la transformation et la torréfaction reste très faible. Hein. Aujourd'hui, à peine 10% du café vert est torréfié. Donc 90% est exporté brut, vert, et qui est torréfié en Occident, en Asie et aux États-Unis. Donc je pense qu'il y a un grand potentiel dans ce domaine.
En tout cas, je reviens avec vous tout à l'heure hein, sur comment justement développer ou valoriser ce potentiel-là, mais avec Bousso Diouf. Alors Bousso Diouf, est-ce que le business du café Touba est un business rentable au Sénégal?
Effectivement, c'est un business rentable. Si je prends mon exemple, c'est un projet que j'ai démarré avec un montant de 15 000 francs.
15 000 francs au Sénégal, c'est l'équivalent, disons, de 300 dirhams pour ceux qui sont au Maroc et peut-être environ 30 euros.
Évidemment. Donc, c'est un projet que j'ai démarré en 2020 après l'obtention de ma licence en comptabilité et gestion financière. Donc, j'avais des difficultés d'insertion professionnelle. C'est ce qui m'a poussé à se lancer dans l'entrepreneuriat et de découvrir ce monde qui a plein d'opportunités. Pour le secteur du café, c'est un secteur très, très rentable. Très rentable. Et je me dis que c'est un secteur que beaucoup de Sénégalais ignorent, que ce soit avec l'État, que ce soit avec les organisations publiques. Donc, c'est un secteur qui demande vraiment un appui pour son développement.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette transformation se fait au Sénégal de façon artisanale ou industrielle?
Oui, ça se fait de façon artisanale et de façon industrielle aussi. Mais la plupart se fait de façon artisanale parce que les machines sont assez chères et il n'y en a pas ici. Pour en avoir, il faut le commander en Chine ou bien dans d'autres pays qui sont beaucoup plus développés dans le secteur industriel que nous.
Alors, est-ce qu'il y a des financements pour faciliter cette transformation locale, sachant que, comme vous le dites, c'est un business rentable?
Oui, l'État est en train de mettre en place avec des structures comme la DPME, comme la DER, comme le Fonds CIS également pour l'accompagnement des entrepreneurs, pour le financement. Nous sommes également en train de travailler avec Best Afrique pour la recherche également d'investisseurs qui pourront nous accompagner sur ce projet.
En tout cas, surtout le café Touba, qui, je le rappelle, est lié en tout cas à la ville de Touba, et cela évoque son caractère en tout cas un peu religieux, parce que on le sait que chaque année, le Magal de Touba au Sénégal est un véritable événement en tout cas à vocation à la fois religieuse mais aussi économique. Moustapha El Bourri, je me tourne vers vous. Comment attirer davantage d'investisseurs sur cette niche hein, qui est assez ou très rentable, même de dire d'acteurs comme Bousso Diouf? Comment attirer davantage d'investisseurs, surtout de la diaspora, pour faire monter cette filière de transformation locale du café? Et je rappelle qu'au Sénégal, on ne produit pas de café.
Oui, tout à fait, Omar. C'est vrai que, comme l'a cité Bousso, les unités de torréfaction sont assez coûteuses. Bon, il existe des petites unités hein, qui utilisent le gaz ou autre, qui sont aux alentours de 3 000 à 4 000 euros. Mais pour avoir une unité sérieuse, voilà, on parle de 80 000 à 100 000 euros. Donc c'est un montant conséquent, sans oublier les autres unités à côté, hein, pour mettre en sachet et autres. Donc oui, pour la diaspora, justement, on est en train de travailler avec Bousso. On va faire un montage de projet, de son projet. Ce qui est intéressant, c'est quand on a déjà un projet existant comme celui de Bousso, parce qu'elle ne fait pas que le café torréfié, elle fait ses propres capsules aussi, elle fait les cafés filtres, elle a vraiment toute une gamme qui est très très intéressante. Donc là, on va faire un montage de projet et que moi je vais présenter donc déjà à toute la diaspora qui est inscrite sur la plateforme, mais aussi à tous les Sénégalais qui sont aussi au Maroc. Déjà, il y a une grosse population sénégalaise que je connais et à qui on peut présenter. Mais je pense à la diaspora, oui, d'après moi, ils seront très intéressés par ce genre de projet qui fonctionne déjà. Il faut noter aussi que Bousso a eu plusieurs prix, hein, elle a été vraiment gratifiée par plusieurs prix au Sénégal d'entrepreneurs. Donc c'est vraiment un projet qui existe, qui fonctionne et qui a un avenir vraiment qui est très porteur.
Un avenir donc porteur en tout cas à tous les investisseurs. Et je pense que c'est l'objectif d'ailleurs hein, de cette émission, c'est non seulement de parler des grands investisseurs mais aussi de ces projets d'entrepreneuriat qui peuvent prendre et développer donc du business. Merci à vous deux, Bousso Diouf. Je rappelle que vous êtes la PDG de Café Touba Al Moutara. Vous êtes basé à Dakar. Et à Moustapha El Bourri, directeur général donc de la plateforme Best Afrique. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation.
Merci, Omar.
Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir.
Plaisir partagé.
Destination Éco.
Et nous mettons le cap sur le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays d'Afrique centrale, hein, un pays très célèbre pour le football, mais qui ne manque pas d'opportunités économique, comme nous le dit Idriss Lingé, directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres la plateforme, donc l'agence panafricaine Ecofin. Idriss Lingé, parlez-nous du Cameroun.
Aujourd'hui, Omar Baldé, pour vos auditeurs, nous allons parler du Cameroun. C'est souvent présenté comme l'Afrique en miniature et affectueusement, les Camerounais d'ailleurs ont décidé de se surnommer les gens du continent en raison de la diversité géographique et culturelle. Le pays se positionne comme une destination d'investissement plutôt attrayante en Afrique centrale. Sa population est d'environ 27 millions d'habitants et il y a une croissance économique qui est quand même stable. En plus, le pays offre un environnement qui est propice aux affaires. Au Cameroun, les gens aiment consommer, les gens aiment l'innovation, les gens aiment entreprendre. Alors, quels sont les atouts du Cameroun, pays continent? Il y a déjà la diversité sectorielle. L'économie camerounaise est soutenue par une variété de secteurs, même si actuellement, le secteur pétrolier est celui qui supporte la majorité des revenus en devises. Mais nous avons toujours des secteurs comme l'agriculture, l'industrie, les services qui offrent de multiples opportunités d'investissement. D'ailleurs, dans les services, les Camerounais sont de plus en plus en quête d'une grande qualité de service et cela donne de l'opportunité pour venir être compétitif. L'autre atout économique du Cameroun, c'est une relative stabilité politique. Il y a des défis au Cameroun. Je veux dire, par exemple, on ignore ce qui se passera si un jour le président actuel n'est pas là. Mais quand on regarde dans l'écosystème en Afrique centrale, aussi bien le Nigeria, le Tchad, la RCA, le Gabon, le Cameroun est un pays qui est plutôt resté simple depuis les années de braise. Le Cameroun manque d'énergie et de transport. Le logement, c'est aussi un domaine sur lequel les Camerounais ont besoin de plus en plus d'avoir des satisfactions. Les technologies de l'information et de la communication, ah ben oui, ça c'est un domaine aussi, il faut progresser.
Merci à vous, Idriss Lingé, directeur de rédaction de Media Mania. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Média. Et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur nos plateformes médias, podcast et sur les plateformes de podcast habituelles.